Bonjour Pierre Chastan.
Bonjour.
Vous êtes médiéviste, vous êtes enseignant, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous vous êtes colté à cette question difficile. Comment raconter d'autres élections que les élections que l'on connaît ces temps-ci en France et en particulier remonter à la période médiévale qui est votre spécialité. Vous nous emmenez à Montpellier.
Tout à fait, mais je ne vais pas aujourd'hui vous raconter une élection comme l'ont fait certains de mes prédécesseurs à ce micro, mais je vais vous présenter la complexe procédure électorale qui s'est mise en place à Montpellier au cours du XIIIe siècle pour désigner les consuls majeurs de la ville en charge du gouvernement de la communauté. En effet, en 1204, le roi Pierre d'Aragon et son épouse Marie, héritière de la seigneurie montpelliéraine, reconnaissent les coutumes de la ville, ce qui conduit rapidement à l'instauration d'un consulat doté du pouvoir de gouverner la ville. Se pose alors la question de savoir comment désigner les consuls de la communauté urbaine et comment permettre, grâce à une procédure électorale, à un corps urbain qui est sociologiquement très divers, d'être représenté. Les Montpelliérains rencontrèrent alors deux problèmes politiques anciens, celui de la représentativité et celui de la délégation de pouvoir, problèmes qui traversent l'histoire de l'Occident, de la Grèce antique, jusqu'au débat actuel, contemporain, sur la démocratie participative. Les communes médiévales ont été le lieu, et c'est peu connu, d'une expérimentation électorale dont les archives de Montpellier gardent à partir des années 1240-1250 la trace documentaire. Le système politique reposait, comme dans d'autres villes du Midi, sur une organisation en groupe que les méridionaux appellent « échelle » et qui regroupait les différents métiers de la ville en 7 ensembles qui correspondent aux 7 jours de la semaine. On comptait donc à Montpellier, comme à Béziers à cette époque-là, une échelle du lundi, une échelle du mardi, une échelle du mercredi, etc., en charge à chaque échelle d'assurer ce jour-là la garde de la cité. C'est sur cette organisation communautaire que reposent les élections au consulat majeur, qui combinent vote et tirage au sort, participation de tous les métiers et privilèges accordés à quelques-uns, que l'on dénomme métiers majeurs, choix des individus et équilibre des groupes. Lors de la première phase de l'élection, qui débute le 1er mars de chaque nouvelle année, les consuls sortants sont répartis selon leur échelle d'origine. Chacun des 7 groupes se réunit dans un lieu séparé et procède au choix, pour chaque échelle, de 5 personnes supplémentaires. S'ensuit un tirage au sort pour ne regarder qu'une personne par échelle sur les 5 choisies.
C'est compliqué, hein ?
C'est effectivement extrêmement compliqué. Et commence alors une deuxième phase dans cette élection qui rajoute encore de la complexité à la procédure. Effectivement, les 12 consuls sortants et les 5 électeurs, soit 19 personnes au total, 5 grands électeurs tirés au sort, soit 19 personnes au total, accompagnés du seigneur de la ville ou de son représentant, choisissent 5 candidats pour chacun des 12 sièges consulaires à pourvoir, soit 60 éligibles. Mais à partir de 1252, peut-être avant, nous ne le savons pas, leur choix est contraint par un texte normatif qui définit ce que l'on appelle en occitan les routelons, c'est-à-dire les règles qui s'appliquent au choix des 60 éligibles au poste de consul. Ainsi, les changeurs de la ville sont certains d'avoir un consul parmi les 12, alors que les bouchers ont 80% de chances d'en avoir un et les forgerons simplement 20. Les sièges à pourvoir sont donc pré-répartis entre les métiers majeurs, selon un modèle qui est tout à fait étonnant et qui fonctionne sur une base probabiliste, et qui plus est, qui varie sur une période de 5 ans.
Ça rajoute encore
de la complexité.
Nous, on a du mal à s'y retrouver, parce qu'effectivement, ça change chaque 5 années. On réinvente l'ordre de ces métiers et l'importance de chacun de ces métiers, c'est
exactement.
Ça.
On a une répartition en année 1, en année 2, en année 3, en année 4 et en année 5. Et la probabilité pour chaque métier varie effectivement selon l'année. Donc là, par exemple, les pourcentages que je vous ai donnés correspondent à l'année 1. Il sera un petit peu différent si on avait pris l'année 2, l'année 3, l'année 4 ou encore l'année 5. Et la désignation finale se fait par tirage au sort entre les 60 qui, pour chaque poste consulaire que l'on appelle chaperon à Montpellier, plonge la main dans un sac, contenant 5 boules de cire, dont une seule contient la carta qui désigne l'élu. Donc vous voyez que cette procédure est une procédure extrêmement complexe, mais c'est une procédure qui est tout à fait intéressante car elle allie finalement équilibre des groupes sociaux, des groupes de métiers, choix des individus, vote et tirage au sort. Et les nouveaux consuls, après donc une procédure d'élection qui s'est étirée sur 3 semaines, entrent en fonction le 25 mars pour un mandat qui est un mandat d'une année.